VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro. Bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Au Mali, le président du Parrainat, un parti politique, Tiébélé Dramé, dénonce les malversations financières liées à l'achat d'avions militaires pour l'armée, pour l'opposant malien. C'est le plus gros scandale sous l'ère Ibeka, on l'écoute.
Ces 42 pick-up qui ont été facturés à l'État malien à 2,3 milliards. C'est la date du mois de mai 2016. Parce que 42 pick-up à 2,3 milliards, ça fait l'unité de pick-up à 54 millions. Tout un chacun sait qu'on peut trouver à Bamako un pick-up à 14 à 15 millions. C'est choquant. Ça fait beaucoup de véhicules en moins pour nos FAMA. D'abord, les hélicoptères ne volent pas. Donc ça veut dire qu'on a acheté des vieux appareils. Même le Premier ministre, vous avez vu, quand il a quitté Kidal pour venir au centre, à au centre, il a voyagé à bord d'un hélicoptère des Nations. Ça veut dire que l'armée malienne est censée avoir des hélicoptères de transport. C'est aussi ahurissant que cela qu'un avion entier soit payé en espèces. Que les ressources qui sont destinées à Souano Fama ne sont pas utilisées à bon escient. Et c'est peut-être le plus grand scandale de l'ère Ibeka.
Tiébélé Dramé du Parrainha au Mali. Un accrochage au Mali le 21 avril dans la région de Tombouctou entre des soldats français de la force Barkhane et des membres d'un groupe armé djihadiste a conduit à la neutralisation de 3 terroristes, a indiqué aujourd'hui à Paris un porte-parole de l'état-major de l'armée française. Cet affrontement a sollicité l'utilisation d'hélicoptères Gazelle français basés dans la région, a précisé le colonel Guillaume Thomas au cours d'un point de presse. La nouvelle force militaire anti-djihadiste G5 Sahel a besoin de fonds promis pour commencer réellement ses opérations, a affirmé hier l'ambassadeur du Niger à l'ONU, Abdallah Wafi, dont le pays préside actuellement cette nouvelle unité composée de 5 pays. Il s'agit maintenant de faire en sorte que les fonds promis soient déboursés, car la situation sécuritaire au Sahel ne fait que se dégrader, d'où la nécessité pour la force de commencer ses opérations militaires, a-t-il plaidé. Présent à ce côté, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, il a appelé aussi les États membres à concrétiser leurs engagements pour mettre des ressources à la disposition de la force de l'ONU et de la force du G5 Sahel aussitôt que possible. Au Burkina Faso, 3 personnes, dont un chef traditionnel, ont été tuées dans le nord frontalier du Mali. Cette attaque a eu lieu mardi soir. Yacouba Ouedraogo.
Alors que les fidèles musulmans revenaient de la mosquée, après la prière du crépuscule, des individus armés ont ouvert le feu sur un groupe, tuant 3 personnes, dont le chef du village de Niafo, son fils et un membre du groupe autodéfense Koroloueougo. Une autre personne a été blessée. D'après une source sécuritaire, les éléments du groupement antiterroriste ont aussitôt entrepris un ratissage dans la commune de Arbinda afin de retrouver les assaillants. Jusque-là, aucune arrestation n'a été signalée. Mardi, le tribunal de Djibo dans le nord a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité. Fin février, une 20aine de policiers du commissariat de Déhou, toujours près de la frontière avec le Mali, avaient abandonné leur poste pendant 24 heures pour protester contre le manque d'équipement. Peu après leur départ, des enseignants ont abandonné leur poste, entraînant la fermeture de nombreuses écoles. Depuis 2015, selon un bilan officiel, près de 80 attaques attribuées aux djihadistes ont fait au moins 133 morts.
Le Parlement du Nigeria a convoqué le président Muhammadu Buhari afin qu'il s'explique sur les mesures prises pour enrayer la violence grandissante dans les États du centre du pays. Les membres de la Chambre basse du Parlement, la Chambre des représentants, a voté mercredi en faveur de la convocation du président Buhari, ainsi que pour le remplacement des chefs de service et conseillers en sécurité de l'armée, selon le président de la Chambre, Yakubu Dogara. Le président Buhari, qui est aussi le commandant en chef des armées, doit répondre aux questions pertinentes sur ce que l'exécutif fait pour mettre un terme à la série de meurtres dans différents états de la Fédération du Nigeria, a-t-il ajouté dans un tweet.
VOA Afrique, en direct de Washington.
L'Église catholique devrait jouer un rôle de médiateur dans la crise qui touche les régions anglophones du Cameroun, estime le Centre d'analyse géopolitique International Crisis Group, ICG, dans un rapport paru ce jeudi. L'Église représente près d'un tiers de la population camerounaise, selon l'ICG, qui déplore les positions divergentes de celle-ci sur la question anglophone et l'invite à surmonter ses divisions et afficher sa neutralité. Les Nations Unies ont salué mercredi à Kinshasa la décision des autorités congolaises 2016 d'autoriser un meeting de l'opposition la veille dans la capitale, tout en déplorant la répression d'autres manifestations dans l'est de la République démocratique du Congo. Mardi, l'opposition congolaise a pu tenir à Kinshasa son premier meeting autorisé par le pouvoir depuis septembre 2016, pendant lequel son leader Félix Tshisekedi s'est montré offensif à 8 mois de l'élection présidentielle censée marquer la fin du règne du président Joseph Kabila. Et nous en venons maintenant au dossier de ce journal avec le paludisme en RDC. Le paludisme, une maladie très inquiétante en République démocratique du Congo, au sud Kivu, où 1 100 000 personnes sont atteintes. Plus de 500 sont décédées en 2017 de la malaria dans les hôpitaux publics comme privés. Chaque jour, des cas sont recensés. Reportage du correspondant de VOA Afrique à Bukavu, Enes Mwero.
À l'hôpital privé Skyborne situé au centre-ville de Bukavu, nous trouvons des paludéens pris en charge, certains en phase de rétablissement. Parmi eux, un ingénieur des mines Ephraim Kizungu.
J'attendais les maux de tête, beaucoup de froid, j'ai tremblé, j'ai senti beaucoup de vertiges, beaucoup de faiblesses, les articulations. Vraiment, je n'arrivais même pas à marcher convenablement. Depuis que je suis arrivé ici, vraiment, je ne sens plus ce que je sentais.
Pour le docteur Kadjibouami, médecin traitant, des cas de paludisme sont réguliers dans la région.
Ça a une grande ampleur. Bon, il y en a qui viennent avec un paludisme simple que nous soignons en ambulatoire, ils rentrent. Il y en a qui viennent dans un cas de tableau de paludisme grave. Là, nous sommes obligés de les interner. La partialité chez Skybone, c'est la rapidité dans les diagnostics. Mais ce sont ceux qui traînent là-bas chez les traduits praticiens avec déjà des problèmes au niveau du rein, problèmes au niveau du foie. Ce sont ceux-là qui nous coûtent la vie difficile. Ça nous prend beaucoup de temps à l'hôpital. Il faut continuer à dormir sous moustiquaire imprégné. Le paludisme, ce n'est pas une sorcellerie. Ça ne vaut pas la peine de passer chez les traduits praticiens.
Selon la division provinciale de la santé, un service technique du gouvernement congolais en matière de santé. 582 personnes sont décédées de la malaria en 2017 au sud Kivu, sur les 1 100 000 personnes atteintes pour une population estimée à 7 millions d'habitants au sud Kivu. Docteur Claude Baïziré ajoute que pour ce premier semestre de l'an 2018, plusieurs efforts en termes de prévention sont mis en place, mais les problèmes persistent. Docteur Baïziré.
Parmi le grand défi que nous avons ici, c'est le coût des soins, surtout lorsque le paludisme devient grave. Il y a les partenaires qui essaient de subventionner surtout les médicaments, mais il y a encore de nombreux défis. Par exemple, pour le moment, nous avons des difficultés, des ruptures, des intrants de lutte contre le paludisme.
Selon Médecins sans frontières, en 2017, l'ONG est intervenue en urgence pour traiter plus de 800 000 cas de paludisme en RDC.
MSF a une stratégie vraiment multisectorielle contre le palu. Ceci inclut même des études avec des entomologistes internationaux et locaux à Bukavu. Aussi, on essaie de tuer les moustiques et les œufs des moustiques avant qu'ils deviennent grands. Pour le moment, en territoire de Fizi, c'est un projet pilote. On fait le traitement, c'est sûr. Dans la communauté, on a des relais communautaires.
La célébration de la journée du paludisme au sud Kivu avait pour finalité de faire un plaidoyer pour que les gouvernements et les partenaires renforcent leur implication dans la lutte contre la malaria. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
L'homme d'affaires français Vincent Bolloré a été inculpé mercredi soir à Paris de corruption, d'agents étrangers, de complicité, d'abus de confiance et de faux usage de faux dans l'enquête sur l'obtention par son groupe de concessions portuaires en Guinée et au Togo. Placé 2 journées en garde à vue, le milliardaire de 66 ans qui a quitté le bureau des juges sans être placé sous contrôle judiciaire est soupçonné d'avoir obtenu les concessions des ports guinéens de Conakry et togolais de Lomé en contrepartie de services rendus aux dirigeants locaux via sa filiale Havas.
VOA Afrique en direct de Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro. À l'international, Téhéran et Moscou ont été catégoriquement rejeté tout nouvel accord sur le nucléaire iranien évoqué par Donald Trump et par Emmanuel Macron. Berlin, Londres et l'Union européenne se sont, elles, montrées réservées mercredi, redisant leur attachement à l'accord de 2015 qui prévoit une levée progressive des sanctions contre l'Iran en échange de la garantie que ce pays ne se dotera pas de l'arme atomique. Fruit d'âpres négociations entre Téhéran et le groupe 5+1, Allemagne, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie, l'accord de Vienne est qualifié de ridicule par Donald Trump qui menace de dénoncer ce texte signé par son prédécesseur Barack Obama. Le président américain doit annoncer le 12 mai sa position sur ce texte. alors que M. Macron a plaidé pour un nouvel accord plus complet. Et puis, le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se retrouvent demain sur la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule en vue de leur sommet vendredi. M. Moon va accueillir symboliquement son visiteur sur la ligne en béton qui marque la frontière entre les deux Corées dans la zone démilitarisée. Quand M. Kim franchira cette ligne, il deviendra le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée il y a 65 ans. Jean-Roger Billon, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.